Donc, écoutez, cette semaine, ça a été une vraie richesse. Hein? On est donc à partir de lundi, 5 heures du matin, et ça allait jusqu'à 9-10 heures le soir environ. Les gens venaient ici et ont été nombreux. Moi, j'étais quand même assez surpris. Tous les matins, 5 heures, il y avait pas mal de monde. Tu sais, il y avait toujours 15-20 personnes, des fois 10-12. Le soir aussi, vers l'heure du souper, il y avait beaucoup. Puis même entre les repas un peu partout, il y avait toujours des gens qui venaient. Et puis, c'était improvisé. On n'avait pas donné de cadre à ces rencontres. Fait que des fois, c'était tout le monde était éparpillé. C'était fascinant de voir ça. Il y en avait qui cherchaient les coins les plus... les plus isolants. C'est, et puis, d'autres fois, on était ensemble, on partageait des idées aussi. Et puis, c'était de façon spontanée. Donc, j'ai envoyé un courriel vendredi à tous ceux qui sont sur la liste d'envoi de l'Église. Donc, si vous n'avez pas reçu ce courriel, c'est peut-être que vous n'êtes pas sur la liste d'envoi. Donc, si vous aimeriez l'être, il faut communiquer sur les heures de bureau, communiquer ici avec Chantal Plourde, notre secrétaire en haut, secrétaire administrative, qui, elle, va vous ajouter. Donc, souvent, le jeudi ou le vendredi, on envoie un courriel avec quelques nouvelles de dernière minute. Bon, donc, vendredi, j'en ai envoyé un qui mentionnait à tous ceux qui veulent et qui ont participé à la semaine de prière et de jeûne, si vous avez des commentaires, des choses que vous aimeriez donner comme témoignage, de l'écrire en... Pas écrire un livre, là, mais écrire un peu. Là. Non, parce que des fois, on se voit, ça peut être long. Là. Mais en résumé, ce que ça vous fait vivre, sans rentrer dans les détails de ce qui vous concerne plus intimement, ça vous regarde, mais en gros, là, comment vous avez apprécié la semaine. Et puis, la semaine prochaine, j'essaierai de faire un retour sur quelques idées, peut-être inviter des personnes, s'il y a lieu, de pouvoir témoigner également, de donner un peu d'espace pour ça. Moi, personnellement, j'ai été fasciné par une idée toute la semaine, et c'est peut-être à partir d'une recommandation que Pasteur Jeff faisait la semaine dernière, à l'effet de lire le livre de Daniel. Et c'est ce que j'ai commencé à faire lundi matin, ici. Et puis, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu le livre de Daniel. J'étais surpris de me dire, il me semble... je redécouvrais ce livre-là. Tu sais, quand ça fait très, très longtemps, on se souvient d'avoir oublié des éléments vraiment intéressants. Et puis, je suis arrêté sur Daniel chapitre 1, les versets 5 à 17, si vous voulez tourner là. Mais juste avant, j'aimerais qu'on montre une carte géographique à l'écran, la carte de l'Empire babylonien. C'est juste une question de mettre en contexte... cette histoire, vous voyez un peu la Babylonie et la ville de Babylone. Oui, exactement. Hey, c'est bon ça, il y a de la technologie ici. Hey, c'est bon, lâche pas, Donald. Essaye juste au moins d'envoyer une fois le petit picot vert. OK. Là, on y est. Donc, Babylone, vous voyez la ville de Babylone. Et si vous allez vers ma gauche, vous avez Jérusalem, qui est le long de la Méditerranée. Vite de même, ça n'a pas l'air loin, mais on parle de quand même de centaines et de centaines de kilomètres. Ah, OK, ça ne marche jamais. Donc, Jérusalem est ici et Babylone est ici. Donc, rapidement, pour comprendre le livre de Daniel, c'est important de comprendre que Israël et Jérusalem, aux alentours de 6 siècles avant Jésus-Christ, plus ou moins, Israël a été déporté, amené en captivité par les Babyloniens. Ils ont été amenés, évidemment, à Babylone. Ça ne signifie pas que tout le monde a été amené. Il y a eu un reste qui est demeuré dans la région de Jérusalem et de Juda. Mais en gros, une bonne partie de la population s'est retrouvée en Babylonie. C'est quand même énorme comme situation. Imaginez là, des centaines de milliers de personnes qui sont obligées, contraintes par des armées, de prendre la route à pied. Et de marcher des centaines et des centaines de kilomètres pour se rendre en Babylonie. Babylone, c'est à l'époque, c'est comme New York aujourd'hui, c'est la ville, c'est la place à l'échelle mondiale, c'est l'empire, c'est le lieu de toutes les cultures, de toutes les richesses, de tous les plaisirs, de toutes les folies. Donc, c'est énorme ce qui se passe là. Et tout ça était voulu par Dieu. Cette déportation avait été commandée par Dieu. C'était prophétisé d'avance que ça arriverait. Et la raison, c'est toujours la même, c'est qu'Israël avait comme négligé son Dieu. Sa relation avec son Dieu se tournait vers des idoles. Et comme j'expliquais il y a quelques semaines, c'est cyclique dans la vie du peuple d'Israël, cette affaire-là. Ça arrive à plusieurs reprises. Et cette fois-ci est arrivé ce châtiment. Et c'est assez fascinant de tout ce qu'on peut faire dire à ce genre d'événement-là, parce que c'est un peu comme si Dieu, d'une part, livrait son peuple à son propre cœur. C'est comme si Dieu disait, « T'en veux de ces idoles-là, ben je vais t'amener vivre là. » Il n'y a pas pire jugement pour un croyant que d'être livré à notre propre cœur. Et ça arrive encore aujourd'hui. Comme croyant, si on est négligent dans notre relation avec Dieu, on laisse entrer des choses inutiles ou des choses dommageables dans nos vies, et qu'on ait de la misère à décider de faire des fois le ménage, ben, il se peut que cette chose-là nous gagne, moins à cause de la chose, mais à cause du Seigneur qui, à un moment donné, nous dit « T'en veux de ça, je vais te livrer à ça, ton propre cœur. » Et c'est ça l'histoire d'Israël en Babylonie, en quelque sorte. L'autre chose importante à dire sur cet épisode-là, qui mène au livre de Daniel, c'est que Nebuchadnezzar, qui est le roi à ce moment-là, il va en avoir plusieurs, mais il y a lui, il y a son fils qui va suivre plus tard. Et un peu plus tard, il y a deux autres rois, Cyrus et Darius, qui vont prendre la place. Des Iraniens aujourd'hui. Darius est encore connu en Iran. C'est un roi dont les Iraniens se souviennent, paraît-il. C'est un Iranien qui m'a dit ça un jour. Donc, ils ont été des rois extrêmement puissants dans cette région-là. Il faut comprendre un peu la dynamique du milieu des rois. Quand j'étudiais à l'université en histoire, j'étais fasciné par la période du Moyen Âge en France, notamment. Je suis beaucoup intéressé, peut-être parce que des professeurs étaient assez spécialisés dans le domaine de tout le monde médiéval, comment ça fonctionnait et comment fonctionnaient les cours royales, notamment. Et on n'a pas idée à quel point le milieu politique et social de l'époque est complètement différent du nôtre. Vous savez, nous, aujourd'hui, on est, et pour cause, on est très scrupuleux sur les questions de copinage dans le domaine de la politique. Tu sais, les enveloppes... sont-tu jaunes ou brunes? Ces enveloppes... sont brunes? Il y en a des jaunes aussi, hein? Bref, vous savez, ce genre de truc de pot de vin, de copinage qui mène à toutes sortes de décisions, de choix, de privilèges... T'sais, aujourd'hui, on a banni ça des milieux politiques. Écoutez, un ministre a de la misère à aller prendre un dessert d'un restaurant sans risquer quasiment de... S'il fait ça ou non sur le bras de l'État. Il est arrivé une histoire qu'une ministre au fédéral l'année passée qui avait bu un drink à 26$, puis ça a fait la manchette. C'est comme, bon, on a beaucoup de temps à perdre. Mais l'idée, c'est que si vous ressuscitiez un roi du 13e ou 14e siècle, puis vous le rameniez dans notre monde aujourd'hui, il capoterait, là. T'sais, on dirait au roi, avant de faire quoi que ce soit, tu n'as pas nécessairement le droit de faire ça, puis ça non plus, puis t'es roi, mais aujourd'hui, t'es roi de pas grand-chose. Alors qu'à l'époque, le système était complètement opposé, c'est-à-dire que c'était le système de s'approcher le plus possible du roi, de faire partie de sa cour et de recevoir de lui des privilèges, de recevoir des territoires, de recevoir toutes sortes de présents et d'en donner au roi. C'était un système bâti sur une forme de corruption, mais pour eux, c'était pas de la corruption, c'était ça le système, ça marchait comme ça. Comprenez? Je ne suis pas en train de vous dire si c'était correct ou pas correct. C'est juste que quand on s'intéresse à l'histoire, on ne juge pas les faits, on essaie juste de les comprendre. Donc, en France, au 14e, 15e, 16e siècle, vous pouviez vous approcher du roi seulement si vous apparteniez à des classes de la noblesse. Les bourgeois, un peu plus bas, eux autres, c'est un peu plus difficile. Mais il fallait être riche, il fallait avoir de l'influence, il fallait être un grand seigneur. C'est pas n'importe qui rentrait là, mais c'est un peu le rêve de n'importe qui veut réussir sa vie, d'un jour pouvoir faire partie de la cour royale. Donc, de pouvoir avoir son entrée là quand on veut, de pouvoir avoir une rencontre avec le roi, puis jaser de business, puis d'affaires, puis de guerre, puis de terrain, puis j'aimerais avoir tel terrain, il appartient à des paysans, mais le roi pouvait décider d'octroyer un territoire à quelqu'un, puis ce quelqu'un arrivant dans un village disait, ben, vous m'appartenez, c'est un édit royal, donc cette région-ci, vous pouvez rester, mais ça, c'est moi qui... le nouveau seigneur des lieux. Vous voyez l'idée? Puis les gens n'allaient pas contester en disant, hey, c'est pas juste, on va te traîner en cour, puis on va traîner le roi en cour. C'est comme, pardon, de quoi c'est que tu parles? Tu veux-tu mourir? Non? Bon, on se calme. Fait que les gens rentraient dans le jeu, c'était comme ça. Puis... donc, pour faire partie d'une cour royale, il fallait être... il y a un mot québécois qui dit ça bien. Il faut le dire. Têteux. Il faut être très têteux. Fallait manger ce que le roi mange. Fallait boire ce que le roi boit. Fallait jouer aux groupies. Fallait s'arranger comme leur parler, comme le roi. Sentir ce que le roi sent. C'était ça. Écoutez, j'ai vu ça, moi, pour ceux qui s'en souviennent, quand on était dans Greta Grace, ceux qui se souviennent, Pasteur Stevens, il y a des groupies qui jouaient à ça là-bas aussi. Puis, Pasteur Stevens est un homme puissant, qui avait beaucoup d'autorité. Puis moi, je me souviens que je voyais des plus jeunes pasteurs prêcher, puis quand ils se présentaient sur la scène, ils marchaient comme lui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il y en a qui se passaient à la main d'un cheveu à la manière de Pasteur Stevens, puis... c'était du théâtre, vraiment. Mais il y a des gens qui ont ce sens du groupie très développé. Ça signifie que tu n'as pas de vie. Tu empruntes des bouts à du monde, à tes idoles. T'sais, quand tu t'habilles comme tes idoles, les artistes, ben c'est parce que tu sais pas où tu vas. Fait que tu décides de t'arranger comme du monde qui savent ce qu'ils vont. Ça, c'est un autre problème. Petite gorgée d'eau pour ça. Donc, tout ça pour résumer l'idée, je veux juste vous faire bien comprendre comment ça se passe chez le roi, sa famille et son entourage. Donc, Nebuchadnezzar, qui n'est pas un imbécile du tout, avait décidé de faire venir ses peuples conquis parce qu'il savait, écoutez, on est dans un monde babylonien, c'est un monde de gens brillants, ce n'est pas des brutes sauvages, même si c'est des armées extrêmement cruelles. C'est un monde de culture assez évoluée à l'époque. Donc, pour Nebuchadnezzar, si on a conquis un peuple, lui disait, vous allez aller me chercher dans ce peuple-là la crème et l'élite des gens brillants de ce peuple-là. Je les veux dans ma cour. C'était quand même un privilège énorme que le roi te prenne comme ça. Et te disent, tu vas faire partie de la cohorte des gens que je vais fréquenter. C'est une façon de dire, je veux comprendre qui vous êtes, comment vous réfléchissez. Puis s'il y a des gens intelligents là-dedans qui peuvent aider l'hégémonie de mon pouvoir à se maintenir, bien, je le veux. Donc, il y avait dans la cour de Babylone des gens de tous les peuples, de toutes les nations, et notamment tous les sages, les astrologues, les scientifiques, s'il y en avait. Tout ce qu'il y avait de gens brillants se retrouvait là automatiquement. Donc, n'importe quel têteux chronique était vraiment heureux d'être choisi. Mais en réalité, ça ne risquait pas d'être le genre de gens qu'on choisissait, parce que si on les voyait comme tels, on les choisissait. On prenait vraiment des gens brillants. Et Daniel, le prophète, et ses trois amis ont été reconnus comme pour Israël, ceux qui allaient se retrouver dans la cour du roi Nebuchadnezzar. Donc, s'il y a un jeu... mais à se jouer que la plupart des gens allaient jouer magnifiquement, mais pas Daniel. C'est-à-dire d'entrer dans la cour royale de Babylone et de rentrer dans les rituels, dans la culture, dans la pensée, dans, dans l'idéologie, dans le plaisir, la fête, tout ce que peut vivre le roi et sa gang, tu essaies de te copier dans ça, de rentrer dans ça. Et ça, pour nous, c'est le monde. Aujourd'hui, c'est toujours, toujours vrai, mais dans des modes différents, dans des époques différentes, dans des systèmes politiques différents. Mais les mêmes grands paramètres sont toujours, toujours, toujours là. Donc, verset 5, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait. J'attire votre attention, et après ça, je vais lire le texte au complet. Le vin dans l'Écriture, tu sais, au second degré, le vin est beaucoup associé à deux choses, au moins deux choses. Il est associé au Saint-Esprit dans plusieurs textes, dans l'Évangile de Jean. Quand Jésus transforme l'eau en vin, le but, ce n'était pas de transformer juste de l'eau en vin pour montrer qu'il était capable de transformer de l'eau en vin. C'était de montrer la différence entre une sorte de vie naturelle, l'eau, et ce que lui allait faire par son œuvre à la croix, une nouvelle sorte de vie. Par le Saint-Esprit, le vin était une figure du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, dans ce contexte, est une figure de cette nouvelle sorte de vie en Jésus-Christ. L'eau a été radicalement changé en vin. Il n'y a aucun processus de maturation qui se passe entre les deux. De l'eau est devenue du super bon vin. C'est ça qui s'est passé. Donc, dans le Nouveau Testament, c'est souvent associé. L'apôtre Paul va dire, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Vin, esprit, encore ici, à la négative, mais c'est encore vin, esprit. Et ça revient de différentes façons. Quand au jour de la Pentecôte, lorsque les apôtres sont sortis dehors de la chambre haute, parlant en langue, la foule avait l'impression qu'ils avaient bu du vin. Encore là, vin, esprit. Donc, il y a souvent cette association-là. Mais le vin est aussi associé aux idéologies, à la pensée, à la fête, à la perdition aussi. Dans l'Écriture. Donc, juste cette idée que le roi voulait que les gens mangent, qui mangent à sa table, mangent ce qu'ils mangent et boivent ce qu'ils boivent, il y a dans ça une idée beaucoup plus que simplement de la nourriture. C'est tout ce que le roi incarne dans ses valeurs, dans ses idées, dans ses modes, que les gens devaient consommer. Donc, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michael, on va s'entendre là-dessus, et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michael, celui de Meshach, et à Azaria, Abed-Nego. Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller. Le verbe « souiller », c'est un mot excessivement clair, de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, Anania, Michael et Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens, écoutez bien ce qu'il leur accorda, science, intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Première chose à dire, ce texte-là n'est pas un plaidoyer en faveur du végétarisme. C'est pas que Daniel ne mangeait pas de viande et ne buvait pas de vin. C'est qu'il a fait une espèce de jeûne, peut-être qu'on pourrait appeler végétarien, mais plus loin dans la lettre, dans le livre de Daniel, on voit que Daniel, à un moment donné, a refait un jeûne et il va dire qu'il avait cessé de boire du vin et des mets, comment est-ce qu'il dit ça, il y a un mot là. Mais, bref, c'est pas que Daniel était contre le vin, puis c'est pas que Daniel était un végétarien, c'est juste que ça veut dire que Daniel, lorsqu'il mangeait pas n'importe quoi, venant de n'importe où, de n'importe qui. Les viandes, tout ça, sacrifiées aux idoles, c'est Daniel, c'est un gars qui a cette radicalité-là dans son esprit, dans son cœur, de ne pas souiller son entendement par les choses de cette vie. Donc, je vais attirer votre attention sur une idée vraiment très subtile. C'est la manière avec laquelle Daniel, à la fois, résiste et radicalement dit non, combiné à l'attitude qu'il a dans sa façon de le faire, c'est-à-dire avec énormément de douceur. Ce qui est un niveau de maturité très particulier. Parce que nous, quand on est un peu radical dans nos convictions, on peut être violent. Et quand on est doux, comme chrétien, c'est doux par le compromis. C'est pas évident d'être capable de manier ces deux affaires-là, donc à la fois avoir de la rigueur et à la fois rester complètement doux. Et une des bénédictions et des richesses que cette attitude-là a amené dans la vie de Daniel, c'est que Dieu a béni Daniel. On vit dans un monde, moi c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup, le christianisme aujourd'hui a fait une volte-face assez impressionnante au cours des dernières années. Moi, j'ai fait partie de ce virage-là, mais j'ai refait le virage à l'envers par la suite. Il y a à peu près 15 ans de ça, mais en 2003, pour être précis, là, je me souviens de l'année, on est au Saguenay, à l'église là-bas. On est sur le point de construire un nouveau bâtiment pour notre église. Et puis, on se dit, il faut faire une église accueillante. Il faut faire une église... Fait qu'on commence à imaginer à quoi ressemblerait l'église. On ramasse des sous, puis on essaye de trouver une façon de... Et là, moi, je me mets à lire des articles de ce qui se passe ailleurs, dans le monde des églises. Comment ça cogite, cette affaire-là? Puis, je découvre un univers... créatif, intéressant. Et ce que j'entends, c'est qu'il faut que les églises s'arrangent autrement et sortent d'un vieux modèle pas très bon. Paraît-il que le modèle d'avant n'était pas très bon. Il y a plein d'idées qui sont suggérées, donc il faut atténuer les différences. L'idée, en gros, c'est comme s'il faudrait que les gens non-croyants, lorsqu'ils entrent dans une église, soient choqués et dérangés par rien. Donc ça veut dire que les prédicateurs doivent faire très attention à tout ce qu'ils disent, éviter certains sujets qui peuvent déranger. Ça signifie qu'il faut donner un esthétisme de salle de spectacle, littéralement, parce que les gens vont voir des spectacles. Et moi, je me souviens que j'ai à l'équipe qu'il va falloir avoir des bancs pas des chaises de même, là. Ça, c'est pas confortable. Les gens, quand ils vont au cinéma, là, sont bien assis. Moi, je me souviens, je disais ça à mon équipe, tout le monde disait, hey, ouais, c'est vrai, t'as raison. Puis là, j'étais pompé, là, voilà. Ici, là, ça va être écœurant, là, ça va être. Tu sais, les gens, quand ils vont entrer ici, là, ils vont triper, littéralement, là. Ça va être tellement beau. Fait que pendant un an ou deux, j'ai consommé les mets du roi. Je pense. Écoutez, moi je comparais ce que notre Église devrait devenir avec l'esthétisme que le monde donne à ses salles, puis à ses affaires, puis à ses ambiances. Puis à un moment donné, ça n'a pas de bon sens de penser de même. C'est pas une salle de spectacle. Et je me suis rappelé le premier jour où j'ai mis mes pieds dans une église. Celle-ci, mais ce n'était pas ce bâtiment-là. Ce qui m'avait fasciné, moi, j'étais un musicien de bar à l'époque, avec tout ce qui vient avec. Puis, j'étais avec Pasteur Claude, qu'on appelait Claude à l'époque. Et fait qu'on était ensemble, puis on avait été invités, puis on s'en va là. Puis, c'est dans une maison, et puis... Ce qui m'a frappé chez les gens, il y avait Pasteur Jeff, il y avait à peu près une vingtaine de personnes qui étaient là, puis c'était une étude biblique un soir, un samedi soir. Puis bref, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que ces gens-là étaient différents. Et quand je me suis rappelé de ça, je me suis dit, OK, est-ce que l'Écriture nous demande d'être des gens pareil que les gens du dehors, de refaire toute cette image-là pour que les gens ne sentent aucune différence, alors que moi, je me souvenais que ce qui m'avait fasciné, c'est que ces gens-là n'étaient pas pareils. C'était des Québécois, ils parlaient français, mais il y a quelque chose qui se dégageait, il y avait une différence. Écoutez, juste pour vous dire ce qui me fascinait les premières fois que je suis allé, c'était que c'était un milieu où il n'y avait pas de cruise. Il y a des filles, il y a des gars, puis ils se parlent normalement, ce monde-là. Quand tu es dans le monde, à cet âge-là, c'est pas ça qui se passe. Tu sais, les belles filles, beaux gars, il y a toujours une... Je veux dire, tu pourrais pas croiser ces filles-là, tu te ferais ramasser. Tu peux pas... Ça n'existe pas. C'est pas que les gens se courtisent pas en passant, mais c'était autre chose, c'était un autre univers, c'était une autre ambiance. Musicalement, moi, j'étais un gars qui fait de la musique progressive, du Rush, des affaires intenses, pas mal. Et là, j'arrive là, puis on écoutait du Richard Toupin. J'étais là, OK, c'était quelque chose, une chambre différente. Il y avait des... En tout cas, moi, ce qui m'a fasciné, c'était la différence, les différences. J'étais énorme à tout point de vue. Et c'est une des raisons, en tout cas, humainement parlant, c'est une des choses qui m'a fait revenir là, c'est que je me disais, OK, ils vivent autre chose, ces gens-là. C'est ce autre chose-là que je veux. Parce que ce que le monde me donne, je suis dedans, je suis écœuré. Fait que pour venir en 2003-2004, quand j'avais cette réflexion-là sur la nouvelle Église, je me disais, si j'essaye de reproduire une ambiance, une atmosphère, comme si on disait, redevenons un peu comme eux pour avoir l'air tellement normal comme eux, pour qu'ils aient tellement pas peur de nous autres, parce que ça suggérait qu'ils ont supposément peur de nous autres. Là. Enlevons les différences, enlevons tous les obstacles. Eh bien, ce que ça produit, c'est que si j'offre aux gens du monde une version chrétienne de ce qu'ils sont déjà et de ce qu'ils ont déjà, à quoi bon? Si je fais juste remettre un vernis chrétien sur les mêmes idées, les mêmes affaires, les mêmes bébelles, la même culture, je viens de casser le témoignage. En réalité, Daniel est un homme de Dieu extraordinaire parce qu'il est justement pas pareil. Le roi, là, veut voir ce gars. Même si ce gars-là ne mange pas ses mets, le jour où le roi a un songe, et qu'il demande à tous ses astrologues, ses mages et ses sages d'interpréter le songe. Et là, le roi piège tout le monde en disant, je veux savoir qui vit vraiment quelque chose avec un dieu ici. Donc, si il y a quelqu'un qui... Parce qu'imaginez toutes les théories religieuses qu'il devait entendre, en ayant toute cette cour autour de lui qui venait de toutes sortes de peuples, de toutes sortes de langues, de cultures et de lettres. Donc, à un moment donné, il a dit, OK, j'ai fait un songe. Et je veux qu'on m'interprète ce songe et qu'on me dise quel est le songe aussi. Fait que, tu sais, les intendants du roi et tout, au roi, si grand roi n'ait été, aucun grand roi n'a jamais demandé une telle chose. Et là, le roi, c'est comme de répondre, ben là, il y en a un qui demande ça, puis ça s'appelle, c'est moi. Et là, personne ne peut interpréter le songe, donc le roi, dans une colère, met tous les sages en arrestation et en condamnation à mort. Pas parce qu'ils ont fait quelque chose, ils n'ont rien fait, mais parce qu'ils ne sont pas capables de faire quelque chose dont ils sont supposés et qu'ils prétendent avoir la compétence de faire, communiquer avec les dieux. Daniel, quand il entend la chose, il est condamné avec tout le reste aussi, va demander... du temps pour réfléchir, pour aller voir son Dieu. Le roi accepte. Et vous connaissez l'histoire, Daniel interprète le songe. Donc, je n'attire pas votre attention sur la composition du songe. Ce n'est pas ça mon point ce matin. Ce qui est fascinant, c'est que Daniel a cette sagesse-là, et ça semble, selon le chapitre 1, être lié au fait que cet homme-là maintenait la différence. Il ne consommait pas n'importe quoi et Dieu a béni cet homme-là en lui donnant de la science, verset 17, de l'intelligence dans toutes les lettres, dans la connaissance de la culture de tout ce monde-là autour de lui, de la sagesse. Comme si j'avais envie de vous dire, n'est pas intelligent et spirituellement sage celui qui cherche le compromis, mais celui qui ne le veut pas justement. Et qui reste centré sur l'Écriture. Donc, Daniel a interprété le songe, a dit le songe, a donné son interprétation. Quel témoignage a été auprès du roi? Le roi a rencontré Dieu grâce à ça. La culture du compromis ne mène pas, certainement pas, à cette sagesse-là. Ça, c'en est sûr. L'autre et dernier point à dire sur Daniel, avant de dire autre chose, sur d'autres choses, c'est que Daniel est une figure messianique du Messie Jésus-Christ dans cette histoire-là, en ce qu'il devient celui qui intercède pour des perdus condamnés à mort, comme Jésus. Tous ces gens-là, ces sages, étaient condamnés à mourir. Et lorsque Daniel interprète le songe, il va demander que tout le monde soit relâché. Daniel aurait pu dire, c'est nous les Hébreux qui avons trouvé le songe. Nous, garde-nous en vie, mais les autres, c'est nos ennemis. C'est des religieux, c'est des fanatiques, c'est des astrologues, des démoniaques, des ci, des ça. Eux autres, tu les. C'est vraiment béni de savoir que Daniel a voulu a sauvé même ses ennemis, a sauvé même ses concurrents. Quel homme extraordinaire, vraiment. C'est une inspiration. Retournez lire cette histoire-là, une couple de fois peut-être, si vous voulez, pour redécouvrir qu'est-ce que c'est que marcher avec Dieu. Venons-en à l'idée ce matin. Cette semaine, j'ai écrit un article que j'ai publié dans mon blog, et puis ça s'appelait « Entre légalisme et rigueur ».« Entre légalisme et rigueur », la ligne est mince. Et cet article-là me venait d'une discussion que j'ai eue avec deux, trois personnes, dont Pierre-Luc Gontier, pas tellement longtemps, nous disait que quelquefois, quand on parle d'avoir de la rigueur spirituelle, de prendre du temps dans la parole, de vraiment se mettre à part, ça peut être vu par certains comme du légalisme. Donc, lui s'était fait dire ça. Tu sais, les gars, il faut lire la Bible, faut se mettre à part. Hey, c'est légaliste. Et c'est une confusion terrible. On n'a plus qu'à faire la différence entre avoir de la rigueur. Et tout semble être. Dès que quelqu'un se donne la peine d'aller un peu plus loin, il a l'air d'un légaliste. Et il y a deux, trois jours, j'ai suivi un débat qu'il y avait sur Internet, un pasteur réformé qui publiait un article dans lequel il dénonçait un mouvement qui existe en ce moment, qui est un peu partout dans les milieux charismatiques. Vous savez, ce mouvement qui veut que vous sortez dans les rues et vous allez prier pour tout le monde qui passe, puis vous guérissez des malades. Et puis, il y a un type, je pense, c'est un Danois qui est venu au Canada dernièrement, qui a fait ça, je ne me souviens plus de son nom, mais peu importe, c'est pas important, là. Et qui, lui, prétend vouloir réformer l'Église, rien de moins, une nouvelle réforme. Après celle de Luther, ça va être la sienne, et fondée sur la théologie du livre des Actes. Donc, lui, à partir du livre des Actes, il prétend réformer toute la pensée, ramener l'Église aujourd'hui à ce qu'elle est, elle devrait être idéalement selon le livre des Actes. Et lui, dans sa compréhension du livre des Actes, c'est qu'essentiellement, les apôtres, ils sortaient dehors puis priaient pour les gens. Donc, on va faire ça, dit-il. C'est très, très pauvre. Théologiquement, ce que le gars amène. Là. Sa pauvreté théologique est bonne. Maintenant, qu'un gars est évangélisé, prie pour les gens, c'est super. Là. Je ne veux pas contre ça. Mais quand quelqu'un le fait en disant ça, c'est la nouvelle réforme, tu dis oh boy. Donc, il y a un pasteur qui a écrit un article expliquant un peu les dérapages là-dedans, bien monté, bien défendu, et il s'est fait critiquer, ce pasteur-là. Il s'est fait traiter de pharisien. Et donc, je me suis dit, OK, dans la définition qu'ils font d'un pharisien, un pharisien, c'est quelqu'un qui a les idées claires, selon l'Écriture. Donc, on croit que les pharisiens, il y a 2000 ans, étaient de l'attitude qu'ils ont, donc des sales pharisiens, parce qu'ils étaient bibliques. Voyez-vous le genre d'idée bizarre dans laquelle ça nous fait pénétrer? Avoir de la rigueur, c'est pas bon. Se livrer à différents types de liberté, ça, c'est de Dieu, c'est in. Si vous faites une étude sur les pharisiens n'ont jamais été accusés par Jésus-Christ d'être des religieux de mauvaise foi à cause de leur doctrine, au contraire. Mais c'est parce qu'ils faisaient toutes leurs œuvres pour être vus des hommes. C'est le problème des pharisiens. Ils faisaient toutes leurs œuvres, notamment, c'est un des points, il y en a d'autres, là, des problèmes chez les pharisiens, mais ils faisaient tout ce qu'ils faisaient pour être vus des hommes. Maintenant, dites-moi qui est pharisien en ce moment sur Facebook lorsqu'on n'est pas capable de faire une seule œuvre pour Dieu sans en faire un selfie. Il y a comme un manque de discrétion chez les chrétiens aujourd'hui, là, tu dis... Gardons ça devant Dieu. Si vous faites quelque chose de bon, là, regardez, moi, je suis plus capable de voir des vidéos où des chrétiens marchent à la rue. Il y a un pauvre à côté, c'est un mur. Puis là, tu vois le chrétien, le bon chrétien, aller porter un lunch, puis il y a quelqu'un qui filme ça. Et là, tu as plein de gens qui disent, ah, waouh, ça, c'est de Dieu. Tu dis ça, là, c'est ça, être un pharisien. Si vous voulez donner des lunchs à des pauvres, c'est une excellente idée, c'est le cœur de Dieu. Êtes-vous capable de le faire sans être filmé? S'il vous plaît. Donc, il y a un cancer dans le monde évangélique. C'est épeurant. On veut ressembler au monde, on veut plaire au monde, on veut absolument être vu pour des bonnes choses. Donc, on veut se développer un esthétisme pour attirer des gens. C'est un peu comme, je donnais un exemple un jour, un jeune pasteur qui est dans une autre organisation qui trippait là-dessus, puis il est venu m'en parler. Puis là, j'ai dit, écoute, ben, c'est comme si, devant ton église, il y avait un bar. T'sais. Et le propriétaire du bar se dit, ouais, il y a une couple de centaines de personnes dans le bord de la rue qui passent devant mon bar à tous les jours, mais ils ne rentrent jamais. Donc, admettons que le gérant qui est bien wise se dit, OK, je vais organiser des soirées Jesus à mon bar. Le soir, on va servir de la pointe 5. Avec du Jello. sur les écrans, on va faire jouer de la musique chrétienne, tu sais, on va mettre une croix quelque part, puis c'est, je sais pas, une photo de Pasteur Jeff. Hein? Le culte en direct. En tout cas, mais vous voyez l'idée, là, c'est le gars se dirait, hey, moi, je vais mettre un peu d'esthétisme chrétien ici, on va mettre des bibles sur les tables, les chrétiens vont venir, vont aimer ça. Le problème, si vous tombez dans le panneau, tant pis pour vous, mais le problème, c'est que lui, là, son intention, c'est pas d'être gagné par qui vous êtes, mais c'est de vous gagner à ce qu'il est. Fait que s'il vous habitue à vous tenir dans son bar, éventuellement, il va tout enlever ça, là. Il va redevenir un bar selon la nature du bar qu'il était avant. Et là, vous allez dire, hey, tu m'as-tu niaisé, coudonc? Ben, virez ça à l'envers. Et moi, je vous dis que si on veut attirer des gens ici, il faut les attirer avec ce qu'on est vraiment. On ne récréera pas un esthétisme pour les attirer. Humainement parlant, il faut se rendre attirant parce que quelque chose de Christ est en nous. Et de toute façon, c'est toujours béni de se souvenir qu'il y a deux dimensions. À la fois, nous, on invite, on évangélise, on témoigne, on invite des gens, on les attire. Puis à la fois, personne ne peut être attiré au Fils, à moins que ce soit le Père qui le fasse aussi. Fait qu'on n'a pas besoin d'être si hautement stratégique pour que ça marche. Donc, tout ça pour revenir au légalisme. Le légalisme, c'est un cancer, et c'est vrai. Mais le légalisme, ce n'est pas d'avoir de la rigueur. Le légalisme, on pourrait se résumer par une pensée assez simple. Et là, il faut que je la retrouve dans mes notes que je me suis complètement perdu. Que je fais semblant que tout est en parfait contrôle. C'est le même qu'on fait ça. Attendez une minute. Ah oui, je l'ai. Bon, merci Jésus. Mais qu'est-ce que le légalisme? Le comportement légaliste ne se reconnaît pas dans les gestes, mais dans les intentions qui le motivent. Un légaliste fait toute chose juste pour obtenir la faveur de Dieu, alors qu'un chrétien rigoureux fait toute chose juste parce qu'il a obtenu la faveur de Dieu. Énorme différence. Dans notre marche avec Dieu, dans notre façon de marcher avec Dieu, la loi de Moïse, et ça c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup ces temps-ci, parce que nous, comme chrétiens évangéliques, on aime se dire, nous, on est sous la grâce, pas sous la loi. Et c'est complètement vrai. C'est complètement vrai. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça, c'est une autre histoire. Si ne plus être sous la loi, ça veut dire qu'on est sous la grâce, veut dire que, parce qu'on n'est plus sous la loi interdit de voler, mais moi, si je suis sous la grâce, je peux donc voler. On n'est plus sous la loi, sous la grâce. Vous voyez, c'est comme ça que les gens le voient aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens ont cette espèce de confusion-là. Alors que selon l'Écriture, la loi reste toujours l'éclairage. On n'est plus sous la loi, sous le rapport de la justification. La loi avait été donnée, pour montrer la nature de notre péché, et non pas pour nous sauver de notre péché. La loi, c'est une lumière. Quand Jésus, dans Jean chapitre 1, va dire « La lumière est venue, mais les hommes ne l'ont pas reçue », il ne parle pas de lui. Il parle de la loi. C'était la loi qui était la lumière que les hommes ont rejetée. Maintenant, la loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité viennent par Jésus-Christ. Si jamais, là, vous donnez une image assez simple, là, si jamais vous... imaginons une route là, sinueuse, tu sais, en forêt, puis une petite butte, puis ça tourne. Et que la voirie décide de mettre des pancartes en disant 80 km à l'heure, c'est pas mal le maximum que tu peux aller ici sans être en danger de faire un accident. Dans les courbes, on réduit ça à 60. Mais vous savez, c'est comme ça que ça marche les routes. C'est la loi. La loi nous informe sur les dangers. Admettons que la voirie décide d'enlever tous les pancartes sur la même route. Et que vous vous dites, On n'est plus sous la loi sur cette route-là. On peut aller à la vitesse qu'on veut. Et que vous décidez de descendre ça à 150, qu'est-ce qui va arriver malgré tout? Ne pas être sous la loi ne vous empêchera pas de faire un face-à-face avec un arbre. La loi ne vous protège pas, puis la loi pas de loi, ça ne vous protège pas non plus. C'est la même chose, ce que Dieu a déclaré parfaitement saint et juste dans sa loi, que Paul reprend dans Romains 7 en disant « la loi est juste, la loi est bonne ». Ça reste toujours l'éclairage du gros bon sens selon le point de vue de Dieu. Donc, c'est la loi qui nous indique en quoi on est pécheur. Ce n'est pas vous et moi qui décidons en quoi on est pécheur ou pas. La loi doit toujours, 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 toujours rester l'éclairage. Dieu va toujours demeurer celui qui est le législateur. Dans Ésaïe, chapitre 33, verset 22, c'est vraiment important, là. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Et dans l'épître de Jacques, vous avez Jacques qui reprend un peu cette même idée. Donc dans Jacques 4, 12, Jacques va dire « Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge? » Donc le texte vous dit de ne pas juger à partir de votre propre jugement des choses, mais si vous restez attaché au jugement de Dieu sur ce que lui dit dans ses législations, vous ne jugez pas. Donc, tout ça pour finir, je vais terminer sur une lecture, Romains chapitre 10, comprendre qu'est-ce que c'est qu'un légaliste, qu'est-ce que c'est qu'un esprit légaliste, et qu'est-ce que c'est qu'un esprit rigoureux? Daniel incarne ce que c'est un esprit rigoureux. Cet homme-là marche à la lumière de ce qu'il comprend de l'Écriture, de ce qu'elle lui demande. Il comprend que si Israël a été déporté dans une terre étrangère, c'est justement à cause de la mollesse du peuple de Dieu qui avait abandonné sa marche avec Dieu et qui s'était tourné vers des idoles. Donc, lui, en homme brillant et en homme intelligent, il ne se dira pas, « Rendu à Babylone, Dieu nous a livré ici, ça veut donc dire qu'il veut qu'on en consomme. » Comprenez-vous, l'intelligence du gars, ça veut dire, si c'est ça le jugement que Dieu nous impose, on va se redonner un peu de rigueur. On va réapprendre à marcher avec Dieu. Et la rigueur, ça n'amène pas à la pauvreté, ça n'amène pas au malheur, ça n'amène pas à... C'est un petit peu un arrière-plan qu'on a. Si on est rigoureux, ça va être moins le fun, ça va être moins... Et c'est faux. C'est plus de richesse, c'est plus de bénédiction, c'est plus de sagesse, d'intelligence, de science et de lettres. C'est juste plus. Et moins de confusion avec ça. Un légaliste, en quelque sorte, c'est une justice étrangère à celle de Dieu. C'est ça, un légaliste. Un légaliste, c'est quelqu'un qui, marchant avec Dieu, se donne une justice qui n'est pas celle de Dieu. Et il y a deux façons de le faire. La première, c'est par une fausse rigueur. Ce que les pharisiens du temps de Jésus faisaient, c'est-à-dire qu'ils avaient même amplifié la loi, ils s'interdisaient toutes sortes de choses, ils s'étaient mis tellement de règlements sur les questions du sabbat notamment, donc il y avait comme amplifié les exigences. Mais la raison pour laquelle il le faisait, je vous disais tout à l'heure qu'un légaliste ne reconnaît pas dans les gestes, mais dans l'attitude qu'il soutient. C'est que leur but, c'était de devenir des justes par eux-mêmes devant Dieu. C'est ça qu'ils recherchaient. Ça, c'est une forme de légaliste. Et l'autre forme de légalisme, c'est du légalisme un peu viré à l'envers. C'est lorsqu'on cherche par une fausse liberté à s'affranchir. L'exemple, c'est comment je peux, je vais vous donner un exemple. La question qui m'a été posée une fois concernant la sexualité, un jeune me dit, jusqu'à où je peux aller, je ne suis pas marié, là, jusqu'à où je peux aller sexuellement avec ma blonde sans offenser Dieu? OK, question intéressante. Prenez cette question-là, puis mettez-la par rapport à l'argent, mettez-la par rapport à votre rapport à votre patron. Tu sais, la parole nous demande d'être des gens soumis aux autorités qui sont là sur nos vies. Jusqu'à où je peux être insoumis, mais en même temps rester en relation avec Dieu? Comprenez-vous, on cherche la limite de ce qu'on pourrait se permettre comme droit qui ne nous ferait pas être rejeté de Dieu. Comprenez-vous que c'est une autre forme de légalisme, c'est encore une autre ligne que je mets, une autre série de règlements. Je fais juste mettre la ligne ailleurs. Mais là, ici, contrairement aux pharisiens du temps de Jésus, je ne mets pas la ligne très haut, je la mets le plus bas possible. Le Seigneur nous demande de soutenir l'œuvre. C'est quoi le minimum que je peux donner pour rester un bon chrétien pareil? C'est aussi du légalisme. Les deux sortes de légalisme expriment un esclavage de moi-même, encore une fois, alors qu'on a été libéré, rendu libre, pour pouvoir marcher avec lui. Donc, je n'ai pas été libéré pour ne pas trop marcher avec lui et faire ce que je veux. Bon, Romains 10, Paul disait, « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Qu'est-ce que nous enseigne la grâce? Si la loi nous enseigne quelle est la nature de notre condamnation, Paul va dire à Tite, la grâce, elle, nous enseigne à renoncer au péché. L'œuvre de la grâce, lorsqu'elle est vraiment bien établie dans nos vies, elle nous enseigne, je ne vous dis pas qu'on réussit ça de même, je ne vous dis pas que c'est simple, c'est des combats, mais un croyant mature est dans ce combat-là, forcément. Amen. Merci, Père, de bénir ta parole aujourd'hui. Seigneur, encore une fois, ce que je te demande ce matin pour chacun de nous, pour moi-même en premier, c'est de nous donner l'éclairage de ta parole, Seigneur. David disait dans le psaume 119, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son chemin, sinon qu'en se dirigeant d'après ta parole? » Seigneur, ce n'est pas des miracles et des délivrances dont on a d'abord et premièrement besoin. C'est ta parole, Seigneur. Ta parole qui dit, ta parole qui parle. Alors, merci, Père, de bénir dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bonne journée, bonne semaine.